France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Jean-François Aquili.
Bonsoir, 8 Français sur 10 plébiscitent la revendication des Gilets jaunes sur le référendum d'initiative citoyenne, principal enseignement de notre sondage au Doxa, Dentsu Consulting pour France Info et Le Figaro, que nous détaillerons à la une des informés. Mais ce n'est pas tout. Une majorité de Français souhaitent que les Gilets jaunes présentent une liste aux européennes. Pourquoi pas, ce serait la saison 2 du mouvement. Les policiers, eux, obtiennent une hausse de salaire conditionnée par une grande réforme, précise Gérald Darmanin, à les comprendre. Les députés débattent des mesures Macron en ce moment même, en urgence, à l'Assemblée nationale, pendant que se met en place le grand débat national. Attention, ministres et députés pourront venir, mais juste pour écouter, prévient Chantal Joanneau, vous l'entendrez. Faut-il quitter la Syrie comme Monsieur Trump? Non, répond la France. Daesh n'est toujours pas rayé de la carte. On en parle avec nos invités. Bonsoir à vous, Véronique Reitzult.
Bonsoir.
Directrice générale de Dentsu Consulting, vous nous en direz plus à propos de cette enquête. Avec nous également Saveria Rojec. Bonsoir Saveria.
Bonsoir.
Et bienvenue, journaliste politique et présentatrice sur Public Sénat. À mes côtés, notre partenaire Henri Vernet. Bonsoir Henri.
Bonsoir.
Rédacteur en chef adjoint au Parisien, aujourd'hui en France. Et notre autre partenaire, bonsoir Alexandre Le Drolec.
Bonsoir Jean-François.
Bonsoir, journaliste politique à l'Obs. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio et à la télé sur le canal 27 de la TNT. Le scénario politique est-il déjà écrit à l'avance? Les Français plébiscitent à une écrasante majorité la revendication des Gilets jaunes sur le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, et souhaitent également à 55% que les Gilets en question présentent une liste aux élections européennes de mai. Voilà donc ce résultat assez étonnant de notre sondage au Doxa, Dentsu Consulting, France Info et Le Figaro, effectué hier et aujourd'hui par Internet auprès d'un millier de personnes sur le RIC. Écoutons Gaël Sliman, cofondateur et président de Doxa.
Ils sont plus des trois quarts, 78%, à se déclarer favorables à cette initiative qui consisterait finalement à aller au-delà du référendum d'initiative partagée qui existe déjà, mais dont certains pensent qu'il réunit des conditions trop drastiques pour être réellement mis en place.
Bah, il a en tout cas jamais été concrétisé.
Et oui, et de par le fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un véritable consensus dans l'opinion pour le RIC. Il n'y a pas que les Gilets jaunes qui y sont favorables. Toutes les catégories de la population française y sont favorables, à l'exception des sympathisants de La République En Marche. Mais sinon, ça fait consensus partout. Gauche, droite, catégorie populaire, CSP+, tous les Français le demandent.
Véronique Reitzult, est-ce à dire que ça y est, c'est plié, le RIC fera partie du paysage politique français?
Non, c'est un peu plus compliqué que ça quand même, parce qu'après c'est une question de modalité. Ce qui est certain, c'est que c'est un sujet qui passionne les Français, qui passionne les internautes. Juste sur cette semaine, on a eu plus de 163 000 messages sur les réseaux sociaux. Et quand on regarde ce que les gens disent, on s'aperçoit qu'en fait c'est assez clivé. On a beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations sur les modalités de ce RIC. Il est plébiscité certes, mais comment va-t-on poser les questions? Qui va choisir les questions? Ils ont beaucoup de remarques sur le fait que
et
si les questions...
À bas du RIC en question.
Voilà, les premières bases, ne serait-ce que du fonctionnement de ce RIC. Et puis, ils craignent aussi que les questions soient souvent sur des sujets plus sociétaux et que du coup, on réponde avec l'émotion et que l'émotion n'est pas forcément...
On pense bien sûr à l'abolition de la peine de mort en cas de drame national.
Évidemment. Ouais. Donc, du coup, ça fait débat. Et ce qui est amusant, c'est que c'est le principe des poupées gigognes, puisqu'en fait, dans le RIC, on finit par dire, mais finalement, est-ce que c'est pas la grande concertation qui doit donner les bases du mode de fonctionnement de ce RIC? Donc, on voit que tout est lié aujourd'hui dans les questions qui sont abordées autour de ce sujet.
Henri Vernet, est-ce à dire que les Français auraient envie de plus de démocratie aujourd'hui?
Oui, bien sûr, ça se voit en effet dans ce mouvement, mais ça s'était déjà vu dans la campagne présidentielle de 2017, où cette participation beaucoup plus directe, beaucoup plus active, beaucoup plus impliquée des citoyens, était en filigrane d'ailleurs, enfin même plus qu'en filigrane, dans plusieurs programmes de candidats, je pense à Mélenchon, Marine Le Pen, dans une certaine mesure, Emmanuel Macron lui aussi, il avait fait notamment un discours à Strasbourg dans un grand meeting, où il avait imaginé des voies beaucoup plus directes de participation des citoyens, et puis tout simplement, c'était déjà dans le programme de Ségolène Royal, c'était son mantra, c'était son axe fort dans sa campagne présidentielle de 2007. C'est d'ailleurs
tout le monde en parle, mais personne ne le fait, hein, en général.
Alors voilà, non, mais c'est exactement ça la question. Parce qu'aujourd'hui, bah oui, le RIC c'est très chic, mais qu'est-ce que ça va donner? C'est-à-dire que. Oui, c'était comme ça en passant.
Non, mais il fallait le.
Notez bien, le RIC c'est chic, signé Henri Verdet.
Mais en effet, il faudra voir les limitations qui seront mises, tout à fait d'accord avec ça. Mais c'est moins le fait d'avoir un tel référendum qui intéresse les Français que ce qu'il pourra donner, c'est-à-dire les réponses qu'il pourrait apporter. Et enfin, si vous dites encore 30 secondes, je vais vous citer. Nous, on a posé la question à nos lecteurs lundi dernier. Alors, bien sûr, oui, la peine de mort, la sempiternelle question, mais il y a également des questions aussi actuelles que sur l'euthanasie, sur la GPA, la grossesse pour autrui, sur le nucléaire. Doit-on sortir ou pas du nucléaire? Voilà des questions que nous ont suggérées nos lecteurs quand on les a interrogés lundi et qui, en effet, sont de grands débats.
Des grands débats démocratiques. Savaria Rojec, vos sénateurs, vous pensez qu'ils ont envie de voir s'installer une sorte de référendum qui enjamberait de fait la vie parlementaire?
Absolument pas. Et justement, c'est ça qui est surprenant, c'est le consensus d'une telle mesure du RIC au sein de la population. On vient d'entendre les chiffres, alors que parmi les élus, parmi les politiques, on les sent, si ce n'est incrédule, en tout cas inquiet. Ils sont inquiets qu'une telle chose puisse un jour être mise en place. Notamment, vous parlez des sénateurs. Gérard Larcher, le président du Sénat, a déclaré hier à propos du RIC, la tyrannie d'une minorité sur la majorité, c'est l'inverse de la démocratie représentative. Donc, les élus, les politiques, à mon sens, n'y croient pas du tout.
Alexandre de Le Drolec, vous êtes d'accord avec ça? Il y a une sorte d'envie, on va dire, collective des Français. Et puis, il y aura le réel.
Il y a le réel. Alors le RIC questionne la nature même du régime finalement. Un RIC, est-ce que ça signifierait la fin des corps intermédiaires? Est-ce que ça signifierait finalement en France le référendum s'inscrit dans une tradition plébiscitaire. Le gouvernement, le pouvoir en place organise son référendum pour se légitimer son pouvoir. Là, le mouvement viendrait d'en bas. Est-ce que ce serait possible? Emmanuel Macron, qui est si attaché à la Ve République et qui est vraiment l'incarnation du monarque de la Ve République, accepterait-il ça?
En tous les cas, c'est un vrai sujet. 20h10 sur France Info. Tout d'abord, le rappel de l'info avec vous, Boris Allier.
C'est une première pour le groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Il décide à l'unanimité d'exclure le député Sébastien Nadeau. L'élu de Haute-Garonne perd son étiquette de marcheur après avoir voté contre le projet de budget 2019 ce matin. Les députés qui se penchent à présent sur les mesures exceptionnelles annoncées par Emmanuel Macron. Édouard Philippe face aux Gilets jaunes. Demain, le Premier ministre sera en déplacement en Haute-Vienne. Il ira d'abord dans la commune de Saint-Thierry pour rencontrer des maires et des manifestants. Un déjeuner est ensuite prévu à Limoges. L'occasion de préparer le grand débat censé apaiser la crise. Aux États-Unis, un juge new-yorkais maintient les poursuites pénales contre Harvey Weinstein, cet ancien producteur de cinéma accusé de multiples agressions sexuelles. Son avocat espérait un abandon des charges après des erreurs commises par un enquêteur, argument rejeté par la justice. Et puis Marcel Hirscher conforte sa place de leader en Coupe du monde de ski alpin. L'Autrichien remporte le slalom de Saalbach. Le meilleur français, Clément Noël, termine lui 7e.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Alors voici le deuxième grand enseignement de notre enquête. Hein. Une nette majorité de Français, 55% contre 45%, ça rappelle des scores d'élection présidentielle, souhaitent qu'une liste gilet jaune se présente, et oui, aux élections européennes. C'est ce que nous dit notre enquête Odoxa Dentsu Consulting pour France Info et Le Figaro. Les gilets, eh bien, sont partagés sur le terrain. Écoutez ce micro rond-point et ensuite vous commenterez.
S'engager en politique, non, je pense que c'est pas une bonne solution. Vu qu'on est apolitique à l'origine. Et je pense que ça va faire le jeu, comme il y a eu un sondage qui est sorti, le jeu de La République En Marche, et que c'est pas bon pour nous.
Moi, personnellement, la politique, même pour les européennes, je ne me verrai pas dedans. En tous les cas, s'il y a des initiatives qui sont faites, elles sont personnelles.
Pourquoi pas, si les gens le sentent. Mais moi, je pense qu'à partir du moment où ils le feront, ils seront obligés de présenter un programme plus précis. Et dès lors, ils rétréciront leur base.
Voilà donc des avis partagés. Véronique Krell-Soult, vous qui avez participé à la fabrication de cette enquête, bon, c'est pas gagné, hein.
En fait, c'est surtout ce qui est compliqué, c'est que ce mouvement donc est né, comme vous le savez, en tout cas, il s'est exprimé grâce aux réseaux sociaux et grâce aux pages Facebook. Sur une page Facebook, en fait, vous n'avez pas de leader par essence. C'est-à-dire que quand vous partagez la modération et l'animation de la page, il n'y a pas un super modérateur et d'autres modérateurs qui viendraient derrière, donc il n'y a pas un leader. Donc en fait, ils sont habitués à cette logique de concertation, de partage. Ils ne veulent pas forcément de leader et d'ailleurs, ils parlent plus de porte-caméra, de porte-micro, en disant en fait, les gens, quand ils s'expriment pour eux, doivent simplement filmer et servir de médiateur à travers leur iPhone, mais ne doivent pas particulièrement s'exprimer pour eux. Donc ils sont pas dans la grande majorité, quand on regarde sur les pages des Gilets jaunes, pas forcément dans une logique où ils ont envie de s'exprimer.
Néanmoins, on a vu certains
leaders, pour autant, bien évidemment,
figures émerger. Hein, lors de...
Bien évidemment, il y a des gens qui savent bien parler, des gens qui s'expriment correctement et qui du coup vont sortir du mouvement, mais en soi, il n'y a pas une logique, en tout cas, quand on regarde ce que les uns et les autres disent sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément une demande si évidente que ça.
Alexandre Le Drolec, le premier témoin disait ça va faire les affaires de la République en marche.
Ça va faire les affaires de la République en marche, c'est certain.
On le dit dans les rangs de la REM, ça se dit vivement. Alors, la liste.
Ça se dit jusqu'au proche du chef de l'État, ça se dit évidemment. Le sondage du JDD du 12 décembre l'a prouvé. Il y a un paradoxe finalement aussi là-dedans, c'est que dans ce sondage, on voit que cette liste est massivement souhaitée par les électeurs et les sympathisants plutôt de la France Insoumise et du Rassemblement National. Oui. Or, ce sont précisément eux qui pourraient pâtir de la constitution d'une telle liste. Alors, par ailleurs, je vois que la constitution d'une telle liste, je vois que mes confrères regardent ça avec un petit peu de scepticisme, se disent, bon, finalement, ce serait peut-être pas si possible que ça. Moi, je pense, au contraire, que je les vois, hein, j'en ai rencontré pas mal, et croyez-moi, ils s'activent en coulisses, hein, et il pourrait y en avoir une, voire plusieurs listes, et d'ailleurs, c'est une des questions qui vont se poser à eux. Vont-ils réussir
vite,
à se fédérer?
Parce que c'est maintenant. Hein.
Alors, la plupart disent que ce sera dans un mois, ils annonceront la constitution de leur liste.
Et Henri Vernès a dit qu'il y a une sorte d'évolution. Au départ, c'était un petit peu nuit debout, hein, les ronds-points avec les gilets jaunes. Et on a l'impression que le mouvement est en train de muter. Ils ne voulaient pas de porte-parole. Et puis, soudain, certains ont envie de se constituer en liste pour les Européens.
Oui, bien sûr, mais c'est allé de pair, d'ailleurs, avec l'élargissement des revendications. Rappelez-vous, au départ, c'était vraiment sur la taxe carbone, donc une taxe bien précise, de l'essence. Et c'est passé un catalogue extraordinaire qu'on verra dans les cahiers de doléances et qu'on retrouvera sans doute dans ce RIC. Donc c'est assez normal qu'il y ait cette volonté. Qu'il y ait une liste aux européennes, ce serait finalement la canalisation tout à fait naturelle d'une aspiration, d'une grande revendication qui a été multiforme, protéiforme et qui a duré quand même très longtemps et qui n'est peut-être pas finie. Il faut pas préjuger de l'évolution du mouvement. Donc ce serait naturel. Je suis d'accord qu'en effet, ce serait très compliqué à réaliser. Mais après tout, c'est ce qu'ont fait les 5 étoiles en Italie. Ils ont trouvé simplement, est-ce qu'il y aurait un Beppe Grillo en France? Hier, j'entendais sur vos cousins de France Inter, Bernard Tapie. On pourrait penser qu'il y a 20 ans, il aurait pu peut-être jouer ce rôle. Est-ce que qui aujourd'hui pourrait jouer ce rôle, sans doute. Alors, chez les politiques, on voit qu'il y a déjà Madame Bovary, c'est moi, hein, les Gilets jaunes, c'est moi. Ça, ils sont plusieurs les politiques qui ont endossé en disant voilà, c'est inutile d'aller créer un mouvement, c'est moi qui le représente, entre Dupont-Aignan, entre Marine Le Pen. Bon, il y a ça. Mais il y a cette aspiration. Juste un mot quand même par rapport à ce que vous disiez sur le RIC dont les politiques ne voudraient pas. Je ne suis pas si d'accord. Moi, j'ai discuté avec plusieurs d'entre eux. Ils sont beaucoup plus nuancés que ça. Alors, bien sûr qu'il y a un côté remise en cause de la représentativité, de la démocratie parlementaire.
Moi, je sens très représentative. Inquiet, hein.
Oui, mais vous en sentez très inquiet, mais quelque part, ils sont extrêmement conservateurs. Et rappelez-vous, le mot de Villepin, les députés ont un organe plus développé que les autres, c'est le trouillomètre. Bah oui, parce qu'ils sentent bien qu'aujourd'hui, ils sont en danger. Mais juste une dernière chose, avoir cette attitude, ce serait ne rien comprendre à ce qui s'est passé en France depuis un mois. Il y a une mise en alerte des politiques. Il y a un côté occupez-vous, nous, écoutez-nous.
Ça serait refusé.
Et ce serait une erreur de balayer ça.
Valérie Arrogin, vous dites inquiétude, c'est ça?
Oui, ça serait refusé. Vous avez tout à fait raison. Il y a un côté, on est aveugle, on ne voit pas ce qui se passe devant nous et on refuse cette exigence de démocratie directe que nous demandent justement les Français, les Gilets jaunes dans la rue.
Juste pour terminer sur la question de la liste européenne,
effectivement, moi, ce que je retiens, je pense que ça n'est pas fait, que c'est très loin d'être fait pour l'instant, notamment sur la question de qui va incarner cette liste. En revanche, effectivement, sur ce que vous disiez sur la ficelle utilisée par la majorité, par En Marche, pour pousser la constitution de cette liste, en réalité pour siphonner effectivement des voix à la France Insoumise et au Rassemblement National, cette ficelle n'est pas très subtile, je trouve.
Voilà. Alors, le mouvement qui abandonne de gré ou de force hein, les ronds-points n'est-il pas en train de s'organiser naturellement? C'est la question que nous nous posons. Christophe Castaner, qui effectuait aujourd'hui une visite de terrain à boulevard Haussmann à Paris sur la sécurisation des grands magasins de Noël, a une fois de plus exhorté les gilets jaunes à rentrer chez eux.
Ce que je sais, c'est qu'au moment où je vous parle, il y a eu un 9e mort ce matin à Agen, sur un rond-point, un gilet jaune qui manifestait. Il n'y a pas de victoire à la lutte. Il y a aujourd'hui des combats à mener tous ensemble pour le pouvoir d'achat des Français, pour l'aménagement du territoire, pour les réformes et les réflexions institutionnelles. C'est le sens des 3 mois de débats que nous ouvrons maintenant. Donc si certains, une petite minorité, c'est quelques milliers de personnes pour l'ensemble du territoire français, veulent continuer à bloquer la vie économique, ils prennent une responsabilité très grave.
Alors nous parlons du grand débat hein, qui, vous verrez, fait débat, puisqu'il divise l'opinion avec notre sondage, nous pourrons vous le démontrer dans la deuxième partie des informés. Mais tout de suite, de fait, Véronique Reltsoult, la contestation des gilets jaunes, est-ce qu'elle n'est pas en train de muter sous nos yeux?
Ce qui est clair, c'est qu'on a vu une mutation au fur et à mesure. Et là, on parle même pas vraiment sur les différentes pages de l'acte 6. C'est plus les ronds-points qui sont redevenus le symbole. Je dis redevenus parce qu'au tout début, c'était quand même les ronds-points eux-mêmes aussi qui étaient le démarrage de l'histoire. Et aujourd'hui, ils n'ont pas forcément envie de partir. Et quand le ministre leur dit ben, « il est temps de vous en aller », c'est pas, ils le prennent pas forcément comme une réflexion de sagesse, mais plus comme on ne leur laisse pas ce dernier moment. D'autant qu'ils n'ont pas forcément envie de rester sur les ronds-points pour toujours. Ils n'ont pas forcément envie de rester sur les ronds-points juste pour le plaisir. Ils veulent juste que, avant que cette grande concertation commence, si elle doit commencer, il faut que leur poids et leur visibilité restent là. Alors, de façon au moins symbolique. En tout cas, c'est ce qu'on peut lire pour beaucoup d'entre eux.
Rapidement, tous les trois, donc du coup, si j'écoute bien Véronique Reltsoult, la seule logique, Henri Vernet, c'est faire une liste et constituer une sorte d'équipe politique. Pas forcément partie. Hein.
C'est une dynamique politique. Fort, voilà. Là, cette dynamique, elle existe, encore une fois. On le voit dans l'éventail des revendications qui sont pour certaines très, très politiques. Bon, y compris les plus, j'allais dire, les plus maximalistes et durs à entendre, les Macron dégage, etc. À la longue, c'est assez pénible, quoi, cette espèce de simplisme dans leur revendication. En revanche, il y en a qui sont réellement, encore une fois, politiques. Et donc, que ça débouche sur un espace politique, que ce soit la liste européenne, oui, puisque c'est la première échéance. Et en plus, c'est assez pratique, les élections européennes, parce que, en quelque sorte, on peut le regretter, mais elles jouent souvent ce rôle de défouloir, parce que beaucoup se disent, bon, mais après
même
tout.
Même si des sujets commencent à être sujet aujourd'hui, hein, quand même.
Oui. Exactement. Et donc, ça peut être une bonne chose. Mais encore une fois, il faudra bien que quelqu'un le canalise, l'endosse et quelque part le représente. On a vu qu'ils brûlaient très vite leurs nouvelles idoles. Hein. Dès que quelqu'un apparaît, il est flingué.
Allez, 20h20 sur France Info, le rappel de l'info avec vous, Boris Allier.
Une nouvelle avancée dans la lutte contre le sida. Des chercheurs de l'Institut Pasteur sont parvenus à détruire des cellules infectées par le VIH. Un nouvel espoir vers une guérison des malades, selon eux. Les manipulations ont été effectuées en laboratoire. Il faut maintenant réussir à éliminer ces cellules dans le corps humain. Le château de Versailles fermera ses portes samedi en raison d'un projet de manifestation des gilets jaunes dans la ville. Un appel à la mobilisation pour un 6e samedi consécutif a été lancé ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Le mouvement a enregistré un 9e décès depuis le début des protestations. Aujourd'hui, un manifestant de 60 ans s'est fait renverser par un poids lourd lors d'un rassemblement près d'Agen. Le chauffeur du camion est en garde à vue. L'enquête sur l'assassinat de 2 touristes scandinaves au Maroc. Les autorités danoises ont authentifié la vidéo montrant le meurtre de l'une des 2 jeunes femmes. 4 hommes ont été arrêtés dans la région de Marrakech et les enquêteurs marocains semblent privilégier la piste terroriste. Et puis l'aéroport de Londres Gatwick paralysé ce soir. La piste a été fermée après le survol de drones non identifiés. Plusieurs milliers de passagers sont touchés par les perturbations avec des files d'attente qui s'allongent à quelques jours de Noël.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Les policiers en colère ont décroché une hausse de salaire qui va de 120 à 150 euros mensuels selon les catégories. Vont-ils rengainer leur mouvement? Pas sûr. Une partie des syndicats qui ont négocié à Beauvau et l'association Mobilisation des policiers en colère avait appelé à manifester ce soir à Paris. Interrogé sur la hausse en question, eh bien Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, invité de France Info ce matin, a émis une condition.
J'ai compris que l'augmentation de salaire, qui était effectivement le cas de cet accord, était conditionnée à la suite par une grande réforme de la police nationale, notamment de ses horaires.
Vous êtes en train de nous dire les 120 euros, c'est pas automatique pour les policiers.
Non, moi je suis en train de vous dire que la condition des augmentations de salaire ou de ce que nous faisons de manière générale avec l'intégralité des négociations que nous pouvons avoir ici ou là, c'est que la réforme continue.
Et sans réforme, pas d'augmentation.
Non, mais sans réforme, le gouvernement ne pourra pas continuer à gouverner, puisque Emmanuel Macron a été élu sur le fait qu'il fallait transformer la France.
Une hausse conditionnée par une grande réforme Savaria rejette. Moi, je suis comme Marc Fauvel. J'ai pas bien compris ce qu'il a voulu dire, le ministre, là. Et vous ?
Il a voulu dire que l'augmentation commence à 120 euros, elle sera jusqu'à 150 euros en fonction des grades plus ou moins élevés. En revanche, et c'est vraiment le problème qui a éclaté aujourd'hui, c'est qu'elle ne concerne que les gardiens de la paix. Résultat, aujourd'hui, les cadres et les commissaires de police ont envoyé une lettre très sévère à Christophe Castaner, au ministre de l'Intérieur, pour lui dire c'est pas possible, ça peut pas concerner que les gardiens de la paix. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème dans ce mouvement, c'est ce qu'on appelle les giros bleus. Les giros bleus, c'est un mouvement de policiers en colère également, anonymes, et eux, ils appellent à se mobiliser, à manifester ce soir à 21h30. Ils sont anonymes, ça fait en ça penser au mouvement des Gilets jaunes, c'est très horizontal, c'est pas structuré, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de représentant, donc difficile de négocier avec eux. Donc en tout cas, non, la colère des policiers, elle est toujours vive ce soir.
Alexandre Le Drolec, ce n'est pas acquis, selon vous ?
Alors, on devrait quand même assister. Il est, oui, clair. Non, il n'est pas très clair.
Non, il n'est pas très clair.
Alors, est-ce que ça suffira ? Dans l'immédiat, je pense que certains syndicats se sont assez satisfaits quand même de ces mesures, semble-t-il, au moins deux et pas des moindres. Une telle augmentation, je crois, est assez rare dans la fonction publique. On se souvient d'un coup de pouce de Jospin aux gendarmes et aux policiers, je crois, en 2001 ou 2002, mais c'est quand même assez rare. Maintenant, le plus important reste à venir, c'est-à-dire que les négociations vont s'ouvrir sur les heures supplémentaires, puisque je crois qu'il y a des 43... Enfin, je vais pas dire de chiffres, mais en tout cas, il y a un nombre très très important d'heures supplémentaires à régler. Il y a le cas de l'équipement vétuste.
275 millions d'euros.
Et surtout, celui des conditions de travail. Donc c'est là, c'est les négociations qui vont s'ouvrir en janvier qui vont être importantes.
Henri Vernet, qu'est-ce que vous avez compris, vous, de cette sortie du ministre des Comptes Publics? Parce que les caisses sont vides. Elles sont vides, mais il y a quand même 10 milliards qui sortent pour essayer de sortir de la crise des Gilets jaunes.
C'est ça. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il y en a un qui tient les cordons de la bourse, et c'est Darmanin. Il est à Bercy, il est au budget, c'est lui qui va dépenser de l'argent que Castaner a promis aux policiers.
Il est censé obéir à l'Élysée, quand même, non?
Oui, mais alors c'est l'un des problèmes de ce gouvernement, d'ailleurs. C'est que vous en avez qui jouent directement, en direct avec Macron. C'est le cas de Castaner, qui est l'un des vieux compagnons. Donc peut-être qu'il est allé un petit peu loin dans ce qu'il a cédé. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'on voit que ça y est, le guichet est ouvert. Parce que là, il a quand même, les syndicats eux-mêmes, j'écoutais leur réaction ce matin, les syndicats eux-mêmes étaient surpris.
Exactement.
Par la rapidité.
On sait que l'arbitrage,
très bien,
sur cette mesure, l'arbitrage s'est
fait aliser. Il y a 10 milliards pour les Gilets jaunes, il y a maintenant des millions, mais juste au titre, c'est névralgique. Je veux dire que les policiers et les forces de l'ordre, c'est névralgique. Est-ce que l'État, parce qu'on a tous en tête les scènes des différents samedis de violence à Paris, dans des grandes villes, à Bordeaux, Saint-Étienne, etc. Ça, tout ça ne peut pas se reproduire. Donc, en quelque sorte, l'État a fait un petit peu preuve de faiblesse devant ses forces de l'ordre. On voit qu'on est dans une situation d'urgence, dans une situation exceptionnelle. Et évidemment, la grande peur aujourd'hui, c'est, le guichet est ouvert. Demain, les infirmières, les enseignants, etc. Autant d'ailleurs de milieux qui sont en effet un petit
effet
peu sous-payés.
Domino de revendications. Véronique Reilsoult, Henri Vernet rappelait à l'instant que ces policiers effectivement ont été pris pour cible pendant de longues semaines. Il y a eu la séquence à Strasbourg où soudain les policiers sont redevenus les héros de la nation. Là, ils manifestent parce que, et pour cause, les conditions de travail, les heures impayées et le niveau des salaires. Quelle est l'image des policiers dans ce pays aujourd'hui?
Elle est plutôt bonne, globalement. Leur mouvement était plutôt salué. Après, c'est toujours ce rapport de « je t'aime moi non plus » et de haine et de rejet entre la population et la police. Quand on me protège, je t'aime. Et quand tu me tapes dessus, je t'aime moins. Mais pour autant, globalement, l'image, elle est plutôt positive.
Même les giros bleus dont parlait à l'instant.
Même dans les giros bleus, parce que, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques temps, il y avait eu un hashtag qui était « balance ton commissariat » et où les uns et les autres avaient partagé des tas d'images. Et globalement, les Français sont d'accord pour dire que les moyens ne sont pas là, qu'il faudrait avoir plus de moyens pour la police pour pouvoir être se sentir plus protégé. Ils trouvent que les demandes de rémunération sont légitimes. Après, c'est le problème de ces demandes-là sont légitimes et d'autres le sont aussi. Mais globalement, une image plutôt positive quand même.
Ouais, ça va y avoir rejet, ça va s'arrêter ou pas parce que bah, là, c'est parti pour durer cette affaire.
Ça dépend si le guichet va continuer à être ouvert. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Élysée ne peut pas se permettre, le pouvoir le sait, une contestation, un mouvement de paralysie dans une telle corporation aujourd'hui. Elle est stratégique. La police aujourd'hui, c'est stratégique en France. Dans le climat politique actuel, ils ne peuvent pas se permettre une paralysie. C'est pour ça que l'arbitrage s'est effectivement fait sur cette prime. Hier, c'est fait à l'Élysée. Et qu'effectivement, les syndicats qui ont négocié, qui ont obtenu cette augmentation de 120 euros, de 120 à 150 euros, ont eux-mêmes été surpris qu'elle arrive autant aussi vite.
C'était quand même le prolongement, Alexandre Le Drolet, inattendu de ce conflit des Gilets jaunes, en deux mots avant la pause.
Un prolongement inattendu. Oui. Certes, Henri parlait de faiblesse du gouvernement. Peut-être qu'on peut parler de lucidité aussi. Peut-être se rendent-ils compte que finalement, des fonctionnaires, des agents de la fonction publique ne sont pas, méritent mieux, tout simplement. Est-ce qu'on ne peut pas parler de lucidité? Je disais qu'un élève, un élève officier de la police nationale rentre à 1300 euros.
Oui. Bon. En tous les cas, le gouvernement sort les rames au fur et à mesure. Voilà. Allez, nous marquons une pause, la météo, le rappel de l'info, et nous poursuivons dans quelques minutes les informés sur France Info.
Vous cherchez un emploi? Vous voulez en changer? Vous souhaitez créer votre entreprise? Conseils utiles, nouvelles compétences? Venez échanger avec les acteurs du monde du travail de votre région au cours d'une soirée exceptionnelle de France Info à Marseille. C'est mon boulot, les nouvelles clés pour réussir avec la Provence. Jeudi 17 janvier à 19h à la Catch Business School, domaine de Lumigny à Marseille. Informations et réservations sur maisondelaradio.fr. Un événement France Info.
Avec Manpower, trouvez votre emploi en CDI. Rendez-vous sur manpower.fr. Avec Dentsu Aegis Network, acteur majeur de la communication et de la transformation digitale des entreprises. France Info Météo, avec les cafés Malongo, Grand Cru biologique et équitable, récoltés à la main par les petits producteurs dans le respect de la biodiversité. À retrouver sur malongo.com.
La météo, les prévisions, avec vous Sébastien Léas pour Météo France.
Pluie, nuages et vents sont au programme de la journée de demain qui s'annonce particulièrement maussade. Demain, il va pleuvoir des côtes de la Manche à la Nouvelle-Aquitaine jusqu'au Jura et au Grand Est. Les pluies seront localement soutenues et le vent soufflera jusqu'à 60 à 80 km par heure, voire plus sur le relief. Des Pyrénées aux Alpes et aux régions méditerranéennes, le temps sera encore calme en matinée avec un soleil voilé, mais quelques plaques de brouillard seront présentes près du delta du Rhône. En revanche, demain après-midi, les nuages de la perturbation vont s'enfoncer jusqu'au midi toulousain, à la Lozère et à l'arrière-pays provençal. Sur les Alpes, l'après-midi sera même pluvieux et l'arrivée d'air très doux va faire remonter la limite pluie-neige jusqu'à 2000 mètres d'altitude en soirée. Un temps plus sec mais toujours chargé va progressivement s'installer sur la Normandie, les Hauts-de-France et en pleine d'Alsace. Seuls les Pyrénées et le pourtour méditerranéen garderont des éclaircies assez franches demain après-midi. Déjà douces, les températures maximales seront encore plus élevées demain. Prévoyez 10 degrés à Lyon, 12 degrés à Strasbourg et Nîmes, 14 degrés pour Lille, Caen, Brest et Nantes, 15 degrés à Paris et à Marseille et 16 degrés pour Tarbes, Ajaccio et Toulon.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
h 30, toute l'info avec vous. Bonsoir mon cher Emmanuel Langlois.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Est-ce un premier pas vers la guérison du sida? Des chercheurs de l'Institut Pasteur annoncent en tout cas aujourd'hui avoir réussi en laboratoire à détruire les cellules infectées par le VIH. Si l'on n'en est pas encore au traitement qui permettrait de soigner, de faire disparaître totalement le virus du corps humain, c'est en tout cas un signe d'espoir. Solène Lehen.
Dans les années 90, la découverte des antirétroviraux contre le VIH, c'était une grande avancée. Ils permettaient de bloquer le virus, l'infection. Là, le principe, c'est de le faire disparaître du corps, de l'éliminer des poches où il restait, des cellules immunitaires infectées qu'on appelle les réservoirs. En fait, les chercheurs de l'Institut Pasteur ont observé que le virus se logeait seulement dans des lymphocytes T, appelés CD4, et seulement dans certains de ces CD4. Il s'agit de cellules qui ont une particularité, elles consomment davantage davantage de glucose pour produire de l'énergie, d'où l'idée de bloquer leur activité. Et en la bloquant, les scientifiques ont permis à ces cellules de résister à l'infection, d'éliminer le VIH. Éliminer les réservoirs du VIH, c'était l'ultime étape dans la recherche contre le sida. Pour autant, le chemin risque encore d'être long pour les scientifiques, car si l'élimination du VIH a été obtenue ex vivo, c'est-à-dire en laboratoire, il reste une marche de taille à franchir, parvenir à l'éliminer in vivo, c'est-à-dire dans le corps.
Solène Lehen, course contre la montre pour la loi Gilets jaunes à l'Assemblée. Le projet comprend la défiscalisation des heures supplémentaires, une exonération élargie de la hausse de la CSG pour les retraités, la possibilité pour les entreprises de verser une prime de 1 000 euros exonérée de toute cotisation sociale et d'impôt sur le revenu. Après les députés, le Sénat se penchera demain sur le sujet. La réponse d'Emmanuel Macron à la pétition pour une baisse des prix des carburants à la pompe, lancée par Priscilla Ludowski, devenue une figure du mouvement des Gilets jaunes et qui compte plus d'un million de signatures aujourd'hui. Vous avez subi de plein fouet la hausse des prix du carburant. Vous avez décidé de réagir en signant cette pétition. Votre message, je l'ai entendu, dit le chef de l'État. Je vous réponds directement. Vous avez raison, a écrit Emmanuel Macron aux signataires sur le site change.org. Et puis c'est la première exclusion d'un marcheur. Le député de Haute-Garonne, Sébastien Nadeau, issu du mouvement des progressistes, a été écarté aujourd'hui du groupe La République En Marche de l'Assemblée après avoir voté contre le projet de budget pour l'an prochain. La hausse des salaires des policiers annoncée hier, elle coûtera à peu près 70 millions d'euros par an, annonce le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. En moyenne, les policiers pourraient toucher au bout d'un an entre 120 et 150 euros nets supplémentaires par mois, selon leur grade. Il est 20h33, les informés, ça continue.
France Info, les informés, Jean-François Aquili.
La deuxième partie des informés de France Info avec nos invités, Véronique Reil-Soult, directrice générale de Dentsu Consulting, qui a copiloté notre belle enquête ce soir. Saveria Rojec, journaliste politique et présentatrice vedette sur Public Sénat le matin. Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint aux Parisiens aujourd'hui en France. Et Alexandre le Drolec, journaliste politique à l'Obs, mes deux partenaires des informés de France Info. Alors, voilà donc les mesures Macron au Parlement ce soir, prié de les voter et sans pinailler. Assemblée et Sénat ont 2 jours pour, aller, on va dire, plier l'affaire. Nous rejoignons ce soir le Palais Bourbon où vous vous trouvez, Simon le Baron. Bonsoir Simon.
Bonsoir cher Jean-François.
Alors, où en sont les discussions, Simon ?
Eh bien, c'est la suspension de séance ici à l'Assemblée nationale, Jean-François, depuis 34 minutes précisément, depuis 20 heures. La séance va reprendre à 21h30. Et avant cela, il y a eu donc 5 heures de débat dans l'hémicycle, de 15h à 20h. Vous savez que les débats sont longs ici, traditionnellement, autour des textes de loi, d'autant que il y a 239 amendements précisément à examiner pour ce texte. Mais vous l'avez dit, Jean-François, il faut aller très vite. L'Assemblée devrait donc voter tard dans la nuit, probablement aux alentours de 5 heures du matin, nous dit-on ici, ce projet de loi sur les mesures d'urgence économique et sociale. Et puis demain, le Sénat va l'adopter définitivement, puisque Gérard Larcher, le président du Sénat, a déjà annoncé que la majorité de droite sénatoriale voterait ce texte pour que les députés, les sénateurs puissent partir en vacances dès demain et n'aient pas à revenir en début de semaine prochaine.
Simon, est-ce qu'il y a eu des oppositions ?
Il y a eu des oppositions, évidemment, en particulier sur les bancs de la France Insoumise et du Parti Communiste, puisque les deux groupes vont voter contre le texte. Les Républicains devraient s'abstenir, tout comme les socialistes, alors que le Rassemblement National devrait voter pour ce texte, tout comme l'UDI et évidemment le Modem et les marcheurs de la majorité présidentielle. Les oppositions sont donc venues des insoumis et des communistes, notamment le communiste Pierre Dharréville, qui a dénoncé un projet de loi qui répond, selon lui, à la règle des 3 E pour embrouille, entourloupe et emberlificotage. Et puis Jean-Luc Mélenchon a estimé, lui, que ce n'était pas avec 4 mesures et un grand débat que les gens allaient s'apaiser et allez quitter les ronds-points, vous allez avoir un Noël au rond-point, déjà prévenu le chef de file des Insoumis en s'adressant évidemment au ministre présent sur les bancs du gouvernement.
Très vite, rapidement avec vous Simon le Baron. Dernière chose, le vote c'est pour quelle heure ?
Mais je vous le disais, tard dans la nuit, hein, a priori, Jean-François, probablement autour de 5 heures du matin, c'est ce que l'on nous dit ici, ce sont les pronostics des députés et des collaborateurs parlementaires avec qui on a pu discuter ce soir.
Allez, merci à vous Simon merci. Le Baron et bonne chance pour cette nuit qui risque d'être longue à l'Assemblée nationale. Savaria Rojec, apparemment, c'est une affaire qui est censée être pliée rapidement. Hein, oui, les marcheurs sont priés d'avoir le doigt sur la couture dans l'histoire.
C'est un texte qui fait consensus. Olivier Véran, qui est le rapporteur du projet de loi à l'Assemblée, a parlé même d'une simple formalité. Il est difficile, même pour les oppositions, d'aller contre un texte qui porte des mesures en faveur du pouvoir d'achat des Français. Résultat, les Républicains, la droite, va voter pour. Les socialistes vont s'abstenir, ça ils l'ont dit. Restent les communistes et les insoumis qui, eux, devraient voter contre. Les insoumis ont d'ailleurs, c'est eux qui ont présenté la majorité des amendements. Ce sont des amendements, on s'en doutait, sur le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune. Voilà, donc ce soir, ça va terminer tard, ça va discuter tard, mais le texte sera voté. Dernière formalité, demain, au Sénat, la discussion au Sénat, on s'attend à un vote conforme du Sénat parce qu'effectivement la droite sénatoriale également a appelé à un vote conforme, donc tout le monde est d'accord.
Apparemment avec un député qui a posé problème.
Hein. Oui, alors c'est pas sur le même texte, c'est le premier, c'est la chose. Majorité en marche à son premier frondeur.
Oui, c'est pour ça que Simon n'en parlait pas, voilà, parce que c'est hors sujet. Mais
c'est pas que c'est hors sujet, il a voté contre le projet de loi de finances, donc contre le budget qui était également examiné.
L'autre partie, hein, oui.
Il est député en marche de Haute-Garonne, il a voté contre le budget parce qu'il trouve que sur la transition écologique notamment, le compte n'y est pas. On s'attendait à ce qu'il soit convoqué par Gilles Legendre, convoqué, peut-être qu'on lui taperait un peu sur les doigts. Visiblement, non, c'est décision radicale. Il a été ce soir exclu, effectivement, du groupe En Marche à l'Assemblée.
Alexandre Le Drolec, vous qui suivez pour l'Obs la majorité, frondeur interdit quand même, il faut le préciser.
Frondeur interdit. On n'amende pas le texte. Il faut absolument que le Sénat, il faut absolument que le texte passe au Sénat demain, sinon c'est la catastrophe. On revient entre Noël et le jour de l'an, donc il faut absolument aller vite, très très vite. Ça peut poser question d'ailleurs, cette accélération, ce timing vraiment très serré. Je crois que il me semble que c'est le même rythme qui avait été adopté pour la prolongation de l'état d'urgence en 2015. C'est dire quand même
ça va très vite.
L'état d'urgence sociale dont parlait Emmanuel Macron.
Henri Vernet, hors micro, pendant le rappel de l'info, Vous aviez ce mot qui nous a interpellé, panique, vous dites.
Oui, je trouve que dans toute cette séquence, on sent du côté du gouvernement de la panique. Je veux dire que tout à l'heure, on parlait en revanche de lucidité. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Enfin, même non. Moi, j'y vois beaucoup de panique. Mais y compris d'ailleurs dans ces séquences en accéléré aujourd'hui à l'Assemblée nationale, de quoi on parle ce texte? En effet, il est vital. Bien sûr qu'il est extrêmement important. Bien sûr qu'il y a l'état d'urgence sociale. Mais quand même, il s'agit juste de revenir sur 18 mois de politique économique et sociale menée jusqu'ici par Emmanuel Macron. Ça mériterait quand même que les députés, y compris de la majorité et y compris avec quelques dissonances, puisse en parler, puisse s'exprimer, plutôt que de dire « Ah non, attendez, il faut surtout voter ça demain, sinon on partira pas en vacances. » Attendez, avoir de telles préoccupations quand on a vu l'état de la France, un pays en crise de nerfs, au bord de la crise de nerfs pendant tout ce temps-là, on peut pas. Et juste un signe quand même de ce gouvernement, j'insiste, en panique, c'est, écoutez, on a assisté à cafouillage sur cafouillage. Je vous rappelle la séquence quand même d'avant-hier de mardi, où on a eu des annulations de mesures, un porte-parole qui est dans son renoncement, un porte-parole qui nous explique moins, plus, moins, etc. Enfin bref, non, on sent quand même un gouvernement qui, là, est pris de court.
Véronique Reilsoult, quand même un mot sur les 4 articles égale 10 milliards d'euros. Enfin, on va la faire courte. Ça plaît aux Gilets jaunes et à tous ceux que vous observez sur les réseaux sociaux?
Ce qui plaît, c'est ce sentiment quand même d'être écouté. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est panique, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est perçu comme on prend en considération et ça bouge et il se passe des choses. Après, il y a quand même une réalité qui est que les internautes, et en tout cas les Français savent compter, se posent des tas de questions sur, évidemment, qui va payer, comment, et ils rentrent beaucoup plus dans les détails qu'on peut l'imaginer avec ce qu'on appelle vulgairement des tutos. Alors ça a commencé avec des histoires de beauté, mais ça existe maintenant sur des histoires de fiscalité, avec des détails très précis de comment on calcule les différentes mesures, où est-ce qu'on va chercher l'argent, ça, voilà, exactement. Donc oui, ça fait débat, mais ils sont évidemment contents de voir que les choses bougent et qu'on prend en considération leurs demandes.
Et les Français deviennent au fil des semaines et des mois des experts en matière de fiscalité. Il était temps, 20h40 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Boris Allier.
Le rassemblement des Giro Bleus est maintenu ce soir devant un commissariat parisien et ce malgré l'accord de revalorisation salariale conclu entre le gouvernement et les syndicats de policiers. Le coût du premier volet de cette revalorisation est estimé à 70 millions d'euros selon le ministre de l'Intérieur. Emmanuel Macron en déplacement surprise. Ce matin, le chef de l'État a rendu visite aux enfants de la fondation Action Enfance sur le thème de la maltraitance. C'était à Soissons, dans l'Aisne, le chef de l'État qui n'a pas pu éviter des questions sur le mouvement des Gilets jaunes. « On ne peut pas régler tous les problèmes à coups de baguette magique », a-t-il répondu. Il est accusé d'avoir assassiné 4 personnes au musée juif de Bruxelles il y a 4 ans. Medine Mouche plaide l'innocence. Le djihadiste français de 33 ans était présent ce matin à l'audience de préparation en vue de son procès dans la capitale belge. Il commencera le 10 janvier. Lui et son co-accusé encourent la réclusion à perpétuité. Et puis le monde du rugby confronté à la multiplication des décès accidentels ces derniers mois, eh bien la fédération et la ligue proposent d'abaisser la ligne de plaquage au niveau de la ceinture et non sous les épaules. Une décision qui intervient après la mort de Nicolas Chauvin, joueur espoir du Stade français qui ne s'était pas relevé après un plaquage.
France Info.
20h, 21h. Les informés, Jean-François Aquili.
Allez, retour sur notre enquête Odoxa, Dentsu Consulting pour France Info Le Figaro. Avec cette grande concertation voulue par Emmanuel Macron qui divise l'opinion, et je parle sous le contrôle de Véronique Relsoult. Alors Véronique, un Français sur deux, 49%, pense que c'est quoi, une opération de com,
oui,
c'est ça ?
Oui, pense que c'est une façon finalement de calmer un peu la colère et de montrer de l'attention.
Oui, mais un Français sur deux y croit.
Donc. Mais 51%,
vous avez raison, ça vient rejeter.
Le verre à moitié plein,
51%.
C'est plutôt 51%, trouve que c'est une bonne idée, c'est
utile,
une bonne chose, c'est utile, ça ne peut pas faire de mal, et en tout cas ça permettra d'identifier un certain nombre de thèmes. Ouais. Et quand on regarde d'ailleurs quels sont les thèmes qu'ils aimeraient bien aborder, on en a parlé tout à l'heure, le fameux RIC, ils aimeraient bien qu'on en parle et que cette concertation permette d'aboutir à quelque chose de construit. Puis après, il y a d'autres sujets bien évidemment qu'ils aimeraient bien aborder.
Ce débat national fait débat, mais quelles en seront les modalités ? L'ancienne ministre Chantal Jouanneau a tracé la ligne à ne pas franchir. La présidente de la Commission nationale du débat public s'est exprimée dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France, Henri Vernet. On va y revenir avec vous, mais également chez nos amis de RTL.
Quand on engage un débat public, il faut être dans une posture d'écoute déjà. Ça, c'est la première attente. Et puis par ailleurs, effectivement, la neutralité. C'est-à-dire vraiment pas avoir le sentiment que c'est quelque chose qui est organisé par un parti politique. Il y a forcément des tentations. Tout le monde veut bien faire, tout le monde veut participer au débat. Et c'est normal. Et c'est plutôt une bonne chose.
Ce que vous dites, pour dire les choses franchement, moins il y aura de ministres, moins il y aura d'élus de la majorité, mieux ce sera.
Il ne faut pas qu'on ait le sentiment qu'ils pilotent les débats, que ce sont eux qui vont rassembler dans une salle, qui vont se mettre sur une tribune et qui vont faire des longs discours. C'est pas comme ça que ça marche, le débat public. Le débat public, on se met tous autour d'une salle, il n'y a pas de tribune, il n'y a pas de discours introductif, il n'y a pas de discours de conclusion. Ce sont les habitants, c'est les citoyens qui parlent.
Allez, ça ne va pas être l'étape la plus facile de la carrière de Chantal Jouanneau. Henri Vernet, vous pensez que les ministres et les députés vont s'asseoir dans la salle, ils vont rester sages ?
Bon, en tout cas, c'est pas l'envie qui leur manque justement d'intervenir. Elle a raison, là, poliment mais fermement, elle leur rappelle les règles. Mais en réalité, en effet, elle n'a qu'une trouille, c'est que l'Élysée, non seulement les ministres, mais l'Élysée s'en mêle, que Matignon s'en mêle, et c'est une réalité. Écoutez-moi, hier, j'entendais Benjamin Griveaux qui posait les lignes rouges. Mais quelle erreur ! Il commençait
par rejouer la présidentielle et
exactement, par rejouer le 2017
et puis et ne pas revenir sur les réformes
et sur les finances publiques, etc. Mais alors, de quoi va-t-on parler ? Enfin, encore une fois, on vient. Du RIC, en attendant le RIC, mais le hic, c'est qu'il n'y a pas que le RIC dans la vie. Il y a aussi beaucoup de demandes très concrètes, il y a des attentes. Encore une fois, ils attendent des mesures, pouvoir d'achat, etc. Bref, moi, je suis pas sûr que ce grand débat... Vous savez, ça fait un peu penser, dès qu'il y a un événement très important en France, et malheureusement, enfin, heureusement parfois, mais le plus souvent malheureusement, ces dernières années, la France a été très secouée sur différents plans, et à chaque fois, on se dit, non, ce sera plus jamais comme avant, etc. On va faire des débats, on va tous se mettre ensemble. Allez, presque, on va faire table rase et faire un nouveau pays. Et puis en réalité, cet élan, il retombe très vite. C'est ce qui risque de se passer avec ce grand débat national. Les Français le sentent, ils le savent, espérons que non. Mais ils veulent encore une fois, participer très directement. Est-ce que les salles qui nous sont promises, y compris le plus décentralisé possible, est-ce qu'elles remplaceront avantageusement les ronds-points? C'est pas sûr, hein, on verra. C'est ça l'enjeu pour eux aujourd'hui.
Alors Alexandre Le Drolleg, pour prolonger ce que dit Henri Vernet, vos cours d'histoire sont récents, j'imagine, vous êtes jeune. Est-ce que vous avez, il n'y a pas un risque de voir une sorte d'assemblée constituante qui serait en train de se fabriquer pêle-mêle autour de ces quelques, il y en aura beaucoup d'ailleurs, débats publics.
Ce sont les termes de cahier de doléances.
Oui, c'est ça, c'est ça, voilà. Il y a un petit côté réminiscence de des siècles précédents.
Il y a un vocabulaire révolutionnaire.
Ouais.
Hein.
Ouais.
Alors,
écoutez, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. L'histoire est en train peut-être de s'écrire.
Ça ne les inquiète pas. Ça.
Alors, les marcheurs, en tout cas, ils sont très intéressés. Et, puis, et surtout, ils ont envie d'y participer. Dans quelle mesure ils vont y participer?
Ils en veulent ou pas? Parce que les marcheurs, en fait, à l'origine, c'était l'ADN des marcheurs.
Ça s'inscrit, cette démarche s'inscrit dans la tradition des marcheurs. Ça, c'est la tradition, oui, la tradition, enfin la jeune tradition des marcheurs, enfin la tradition qui date de deux ans. Voilà, donc c'était la grande marche de 2017. C'est même la grande marche finalement pré-européenne. On est un petit peu dans cette, malgré tout, cette tradition, avec un souci effectivement. Et Henri le disait. Comment, que va faire l'Élysée finalement? Chantal Jouanneau pose une limite. Je suis pas sûr que poser une simple limite va suffire.
On fait autre chose avec. Dites-moi, ça va y arranger qu'une question. Vos sénateurs à vous. J'ai pas dit vieux sénateur, j'ai dit le sénateur. Parce que la limite de la
mienne. Ils sont pas de mes sénateurs.
La limite d'âge, c'est 60 ans maintenant au Sénat. Les sénateurs.
C'est la même moyenne d'âge que l'Assemblée d'ailleurs.
Ils ne doivent pas vraiment apprécier cette opération, non?
Non, je crois que tout le monde voit à quel point ça séduit effectivement les Français et l'opinion publique. Donc, personne ne dit publiquement être contre cette conciliation. Je voudrais juste ajouter, effectivement, Chantal Jouanneau insiste depuis ce matin dans vos pages et sur RTL sur sa neutralité politique, sur le fait que ce ne seront pas des mythiques politiques, que si des ministres ou des élus sont présents, il faudra qu'ils soient silencieux. Je trouve qu'on oublie, il y a un épisode qui s'est passé avant-hier, Emmanuel Macron, il a annulé, ça prouve l'importance que revêt pour l'Élysée cette histoire de grand débat national. Emmanuel Macron, avant-hier, il a annulé un déplacement à Biarritz. Il devait lancer la présidence française du
G7. G7, oui.
Voilà, c'est pas rien
de lancer la présidence à l'Élysée avec
non, mais c'est pas rien de lancer la présidence française du G7. Il a annulé, il a envoyé Jean-Yves Le Drian, tout ça pour être présent à une réunion à l'Élysée, justement, précisément, sur l'organisation de ce débat, de cette consultation nationale. Donc, ça dit bien l'importance que revêt pour l'Élysée ce débat et à quel point, surtout, il compte bien garder la main là-dessus.
Véronique Reilsoult.
C'était juste pour préciser que autant le RIC, on l'a vu tout à l'heure, ne fait pas débat, enfin tout le monde est d'accord, on fait débat sur les modalités, autant cette concertation, elle partage les Français. Ça n'est pas un sujet que de gilets jaunes, loin de là. Les Français globalement ont envie que cette concertation ait lieu. Ceux qui disent on a peur que ce soit un gadget, c'est justement, ils ont peur que ce soit instrumentalisé. Et les sujets qui sont le plus demandés sont des sujets finalement qui ne remettraient pas forcément en question l'élection et qui ne sont pas forcément des sujets qui mettent en difficulté le gouvernement, puisque c'est des sujets sur l'immigration, des sujets sur la transition, des sujets sur la fiscalité évidemment, la constitution, et on pouvait lire aussi beaucoup sur les réseaux des questions autour des dépenses contraintes, et donc ça revient au pouvoir d'achat. Mais c'est pas contre le gouvernement, c'est un sujet de, ils veulent débattre d'un certain nombre de points qui leur semblent essentiels.
Puisque vous évoquez cela, Véronique Reilsoult, je me tourne vers vous, Henri Vernet, les sujets en question. Mais attendez, mi-janvier, mi-mars, on sera en plein débat des européennes.
Bien sûr, bien sûr. Et des européennes qui, là encore...
Elles vont pas s'inviter dans les débats.
Mais bien sûr. Mais d'ailleurs, quand ils disent ça, quand ils disent qu'il faut pas rejouer la présidentielle, c'est qu'il y a une occasion de la rejouer, qui sont ces européennes. On sait bien à quel point elles tiennent au cœur d'Emmanuel Macron, qui en a fait un match extraordinaire entre les populistes et souverainistes d'un côté, les progressistes qui l'incarnent ou incarneraient, c'est selon... donc son propre camp. Et alors pourquoi est-ce qu'ils disent qu'il ne faut pas rejouer la présidentielle? Qu'est-ce qu'ils craignent? Ils craignent que justement ceux qui mettent en cause en permanence la légitimité de cette élection, parce que c'était un deuxième tour un peu spécial, enfin le deuxième qu'on ait connu quand même, mais donc entre Madame Le Pen et Emmanuel Macron, et donc cette légitimité qui est en permanence mise en question par la France Insoumise, par Mélenchon, par beaucoup de gens du Rassemblement National, etc. Et donc c'est ça qui, il y a un petit peu cette crainte que en gros ce soit allé les portes ouvertes à un débat qui serait beaucoup plus politisé qu'autre chose, et c'est ça
c'est-à-dire que ce que clame Chantal Jouanneau, qui est une personne très bien, c'est à la fois digne, mais c'est un brin incantatoire. C'est-à-dire qu'on peut décréter que ce ne sera pas politisé, mais ça va l'être.
C'est de la bonne volonté, on verra comment ça va se passer, ça commencera en janvier.
Mais elle est convaincue par ça, mais ça va être compliqué à gérer quand même, non ?
Oui, elle a même envoyé une lettre à Matignon pour expliquer justement la façon dont elle voyait les choses.
Allez, voilà. Oui.
Mais juste pour terminer, oui. Pardon, sur les thèmes, effectivement, il y a un vrai risque que ça cristallise tous les Macron d'émission, que ça cristallise le rétablissement de l'ISF, la proportionnelle, les prix de l'essence. C'est ces thèmes-là qui sont aujourd'hui dans les cahiers de l'Anse qui ont été distribués, récupérés par les maires ruraux. C'est pas les thèmes transition écologique, fiscalité que veut le gouvernement.
Voilà, et nous attendons avec impatience le résultat du vote ce soir à l'Assemblée nationale. 20h50 sur France Info, le rappel de l'info avec vous, Boris Allier.
Édouard Philippe face aux Gilets jaunes. Demain, le Premier ministre sera en déplacement en Haute-Vienne. Il ira d'abord dans la commune de Saint-Thierry pour rencontrer des maires et des manifestants. Un déjeuner est ensuite prévu à Limoges, l'occasion de préparer le grand débat censé apaiser la crise. Les députés, eux, consacrent leur soirée, même leur nuit, à l'examen des mesures exceptionnelles annoncées par Emmanuel Macron. Un projet de loi de 4 articles qui est arrivé en urgence à l'Assemblée nationale avant de rejoindre le Sénat. Demain, il pourrait être adopté avant les vacances parlementaires. Une nouvelle avancée dans la lutte contre le sida. Des chercheurs de l'Institut Pasteur sont parvenus à détruire des cellules infectées par le VIH. Un nouvel espoir vers une guérison des malades. Les manipulations ont été effectuées en laboratoire. Il faut maintenant réussir à éliminer ces cellules dans le corps humain. Et puis la rechute de Martin Fourcade. Le biathlète français se contente d'une 43e place au sprint de Nové Mesto en République tchèque. C'est son grand rival norvégien Johannes Bo qui remporte la course et conforte sa place de leader.
France Info.
20h, 21h, les informés. Jean-François Aquili.
Mais quelle mouche l'a piqué, la décision de Donald Trump de retirer ses troupes de Syrie est critiquée par la France, par la Grande-Bretagne, par l'Allemagne, pas par la Russie. Hein. Et elle inquiète les alliés kurdes de Washington qui poursuivent le job sur le terrain contre les terroristes de Daesh. Il reste quelques poches et vont se retrouver bien seuls par la suite face aux Turcs, confrontés par leurs alliés russes. Voici d'abord la déclaration du président américain Donald Trump.
Nous avons gagné contre le groupe État islamique. Nous les avons battus et nous les avons bien battus. Nous avons repris les terres et maintenant, il est temps que nos troupes rentrent à la maison. Nous avons gagné et il est donc temps de rentrer. Maintenant, ils sont en train de se préparer. Ce sont des grands héros américains.
Henri Vernet, c'est un film, nous les avons gagnés, nous les avons bien battus, sont des héros. Mais je répète ma question, quelle mouche l'a piqué ?
Bon, il a quand même une certaine constance là-dedans, parce que ça fait un bout de temps qu'il disait qu'il voulait rapatrier ses boys, hein, comme il dit, de Syrie. En fait, ce sont les généraux américains qui ont réussi à retarder cette décision que voulait prendre Trump. Les généraux et également Emmanuel Macron. Hein. Macron, enfin l'Élysée en tout cas, a toujours affirmé qu'au printemps dernier, quand il était déjà question de ce retrait, donc il y avait eu dans la foulée une rencontre entre les deux hommes, et le président français avait réussi à lui dire non, il faut les laisser un peu. Et il a raison, parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, en effet, avec ce retrait. Ils sont 2000, les Américains, dans cette région. Il y a donc également des Français, mais les Français sont des forces spéciales qui sont extrêmement utiles et qui confortent, eux, les Kurdes, mais ils sont 100 à 200. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'Élysée, aujourd'hui, en tout cas, disons, le ministère de la Défense, le gouvernement, a beau assurer que les Français, eux, vont rester, y compris les Britanniques. En réalité, je crains que ce soit une affaire de semaines, au mieux de mois, mais les Français, pour travailler là-bas, ont besoin de la logistique américaine. Donc on ne voit pas comment ils peuvent les aider.
C'est une catastrophe, alors.
Mais bien sûr, c'est une catastrophe. Moralement, c'est indigne, parce que ces gens-là, les Kurdes, ils se sont battus contre Daesh, ils ont été en première ligne, y compris d'ailleurs les combattantes, les femmes kurdes. D'abord, en plus, ce sont quand même à peu près les seuls qui puissent être des alliés des Européens, des Occidentaux, de manière générale, dans cette région. Voilà comment ils sont récompensés, parce que, évidemment, enfin, bon, bref, en une seconde, ils veulent créer leur truc, hein, ils veulent créer leur État, le Rojava, autonome, voire indépendant. Et ça, pour les Turcs, c'est pour Erdogan et les Turcs en général, c'est inacceptable. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On fait le jeu des Turcs.
Alors, citation de Florence Parly, Daesh n'est pas rayé de la carte. Il faut vaincre militairement de manière définitive et dernière poche de cette organisation terroriste. Savaria Rojek, la ministre des Armées, elle a raison.
Évidemment qu'elle a raison. Les Français ont passé la journée, ils vont tenter de négocier une période de transition. On ne connaît pas encore précisément le calendrier de retrait américain. Donc les Français, les Allemands vont tenter de négocier un retrait coordonné pour pas fragiliser, on l'a dit, hein, les troupes sur le terrain, les troupes kurdes dans le nord du pays. Emmanuel Macron reçoit en ce moment même, ce soir, à l'Elysée, justement, les représentants de ces troupes kurdes. Elles sont maintenant, vous l'avez dit, c'est un drame. Elles sont prises en étau entre la Turquie au nord et les forces alliées de Bachar el-Assad. Donc, c'est un véritable étau. Et puis, par ailleurs, sur votre question d'origine sur Daesh, il reste des poches de Daesh, notamment dans l'est du pays. C'est ce qu'a dit Florence Parly, effectivement, c'est la réaction officielle de la France. Il ne faudrait pas que ce reflux de Daesh dans l'est du pays disparaisse du fait du retrait américain.
Alexandre Le Drolet, l'actualité internationale, donc la Syrie s'est rappelée au bon souvenir d'Emmanuel Macron.
Oui, exactement. Alors vous nous disiez quelle mouche a piqué Donald Trump, mais Donald Trump s'inscrit aussi dans la lignée de ces présidents américains qui ne sont pas interventionnistes, mais plutôt isolationnistes finalement. Alors il s'en défend, hein. Il dit je ne suis pas isolationniste, mais il dit aussi je suis American first. Ça se vérifie sur bien des domaines, hein, en économie, en immigration et aussi sur le plan militaire. Il s'inscrit aussi, Barack Obama s'était retiré aussi de l'Irak il y a quelques années. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais cette décision avait provoqué la colère de celui qui était alors candidat à la Maison-Blanche, il me semble, Donald Trump.
Véronique Rehl-Soult, cette déclaration de Donald Trump qui a dû être commentée, j'imagine, non ?
Qui a été très commentée, évidemment. Après, comme d'habitude, de toute façon, Donald Trump et les réseaux sociaux et Twitter, c'est quand même une histoire constante. Oui, d'ailleurs, quand vous vous ennuyez, vous pouvez aller regarder ce qu'il a dit. Généralement, vous n'êtes jamais déçu. Mais globalement, sur ce sujet-là, oui, bien sûr. D'abord, sa force, c'est qu'il n'arrête pas de dire « je fais ce que j'ai dit ». Ben, il l'avait dit.
Il l'avait dit, absolument.
Et néanmoins, il a quand même pris tout le monde de court. Hein,
oui, mais ce que je veux dire, c'est que...
Le timing, l'annonce de la décision, sujet... même ses plus proches conseillers...
Comme d'habitude. Oui, mais comme d'habitude, il le fait à chaque fois. Donc on va dire qu'est-ce qu'il a piqué. Comme d'habitude, il fait selon son agenda, à sa façon. En plus, il utilise, vous disiez, pour commencer, on dirait un film, mais oui, mais même les mots qu'il utilise, c'est les mots que les Américains ont envie d'entendre. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on voit les choses à l'aune ici d'une connaissance un peu plus forte de la situation locale. Pour les Américains, tout ça est loin et ça ne les intéresse pas forcément. Ils ne comprennent pas. Hein. C'est surtout, ils s'accrochent aux symboles. Et puis pour eux, une fois de plus, ce qui compte, c'est ce qui se passe à l'intérieur et que des héros vont revenir et on va saluer les héros et ils reviennent à la maison.
Les militaires américains ne sont pas pour le retour. Hein. C'était plutôt pour rester. Je reviens juste sur ce mot. Bien sûr, la morale et la politique n'ont pas souvent grand-chose à faire ensemble. Encore moins la réelle politique. Mais réellement, c'est une faute morale politique. C'est une vraie faute. C'est abandonner des gens qui se sont battus, qui ont fait le boulot pour les Occidentaux, pour la sécurité de la région d'ailleurs, tout simplement, pas pour les Occidentaux.
Henri Vernet, puisque vous avez la main, qui est-il à la une du Parisien aujourd'hui en France ?
Alors, on revient dans l'Hexagone. On a une sur attention radar, attention danger. Le fait de casser comme ça tous les radars, c'est pas malin du tout. Ça relance l'insécurité routière et donc ça met des vies en péril.
C'est vrai que le parc est quand même sérieusement amoché. La une de l'Obs avec vous, Alexandre Grenac.
50 histoires d'amour pour se changer les idées.
Ah, c'est pas mal ça. Ça nous fait planer un petit peu.
Merci.
Ah, ça, on a bien fait de finir avec vous. Allez, merci à Véronique Rehl-Soult, Saveria Rojek, Henri Vernet et Alexandre Le Drolet qui nous parle d'amour. Pour ma part, je vous souhaite une bonne soirée et à demain soir pour une nouvelle édition des Informés de France Info.